Bonjour à tous, bienvenue dans Grand Bien vous fasse. Ce matin, comment bien choisir son logement quand on quitte une grande ville? C'est notre thème ce matin. Donc, les médias ont souvent parlé d'un exode urbain depuis le premier confinement. Mais un papier intéressant dans Libération ce matin montre qu'aucun dépeuplement des grandes villes ne se dessinait à long terme. Des territoires très attractifs, comme la façade ouest, l'étaient déjà avant la crise sanitaire. Une étude pluridisciplinaire indique même que la pandémie de Covid-19 n'a pas bouleversé de fond en comble les structures territoriales françaises. Quoi qu'il en soit, la pandémie a agi comme un déclic chez de nombreux Français en amplifiant un phénomène qui existait déjà depuis quelques années, l'attraction pour le littoral ouest ou certains espaces périurbains plutôt que pour la capitale et les grandes villes. C'est l'occasion de comprendre cette attraction pour ces zones géographiques désirables. Comment réussir son déménagement quand on souhaite fuir les métropoles? Quelles sont les erreurs à éviter? Quel est l'impact immobilier pour les autochtones qui voient les prix flamber à certains endroits, comme en Bretagne ou au Pays Basque? Nous aborderons également les aspects psychologiques du déménagement. Si vous avez quitté une grande métropole ou si vous vous apprêtez à le faire, n'hésitez pas à témoigner ou à poser vos questions au 01 45 24 7000 ou sur l'appli France Inter. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rebéi, Grand Bien vous fasse.
Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles aujourd'hui les Franciliens ont envie de quitter l'Île-de-France pour d'autres régions de France.
Quelles sont ces raisons ?
Alors la première raison, c'est tout simplement de gagner en qualité de vie. Et donc on entend par qualité de vie avoir un logement plus grand, donc plus d'espace et si possible un accès à un extérieur, un jardin. Avoir une vie moins stressante, passer moins de temps dans les transports et aussi avoir un meilleur équilibre entre sa vie personnelle et professionnelle.
Et on vient d'écouter Kelly Simon de l'association Paris Je Te Quitte. Bonjour Olivier Marin.
Bonjour Ali.
Rédacteur en chef au Figaro, spécialiste de l'immobilier, chroniqueur sur France Inter dans la matinale du week-end avec votre rubrique L'urbanisme demain qui passe le samedi à 6h48. Bonjour Jean-Laurent Casselli.
Bonjour Ali.
Vous êtes journaliste, essayiste, co-auteur avec Jérôme Fourquet d'un livre indispensable pour comprendre notre pays, La France sous nos yeux, économie, paysage, nouveau mode de vie, et c'est publié au Seuil. Alors j'ai été, je l'ai dit, un peu étonné à la lecture du quotidien Libération ce matin, qui met en lumière une étude pluridisciplinaire très intéressante, qui indique que la pandémie de Covid-19 n'a pas bouleversé de fond en comble les structures territoriales françaises. Je croyais qu'on assistait à un vaste exode urbain, Olivier Marin.
Oui, alors, vaste exode urbain, il ne faut peut-être pas exagérer. Non, on a un mouvement, et c'est normal, qui est très très lent. Ça prend du temps, il faut... C'est une décision aussi de couple, c'est une décision de famille. Il faut tenir compte des enfants, de l'école, de l'emploi, des transports, de la mobilité, trouver un cadre attractif, trouver la ville. Enfin, il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte qu'évidemment, ça peut pas se passer comme ça. Et oui, il n'y a pas eu d'exode urbain avec des valises et des gens qui sont partis, qui ont pris des camionnettes vers l'ouest de la France. Il y a eu quand même, et on le voit, et ça se traduit, on l'a sur tous nos sites internet sur l'immobilier, des demandes notamment, beaucoup de franciliens qui souhaitent aller dans l'ouest de la France, du côté de Rennes, du côté de Nantes, évidemment, il y a toujours Bordeaux, enfin... Il y a quand même ce mouvement qui est lent et progressif.
Et oui, Jean-Laurent Casselli, on assiste à un mouvement de fond tout de même depuis quelques années, l'attraction pour ce que vous appelez une France triple A dans votre livre, triple A en référence au système des agences de notation. Cette France désirable, à quoi ressemble-t-elle exactement, Jean-Laurent Casselli ?
En effet, on se rend compte que le Covid a plutôt révélé et accéléré des tendances qui étaient déjà à l'œuvre. Vous l'avez dit en introduction, l'attrait pour les littoraux, notamment toute la façade atlantique, Bordeaux, la côte basque, la Bretagne, également l'attrait pour les petites villes, le retour en grâce des villes moyennes dont on disait tellement de mal il y a encore une décennie, également le modèle de la maison avec jardin, plutôt que l'appartement dans une grande ville. Donc en fait, si vous voulez, toutes ces tendances étaient déjà effectivement à l'œuvre. Et moi, ce que je voudrais dire, c'est que certes, l'exode, on n'a pas d'exode urbain massif, il n'y a pas eu de bouleversement dans les migrations, dans les déménagements, mais tous les agents immobiliers, tous les réseaux d'agences vous disent que, on voit bien que les recherches sont en train de se déplacer vers les petites villes, vers la campagne, vers le périurbain. Et surtout, le plus important pour moi, c'est que le Covid a bouleversé les imaginaires, c'est-à-dire nos représentations des territoires. Notre carte mentale, en d'autres termes, de la France a totalement changé. Et ça, pour moi, c'est très puissant, et je pense que ça se traduira dans les chiffres peut-être un petit peu plus tard. Mais nous, ce qu'on appelle effectivement dans le livre la France AAA, c'est-à-dire la France la plus désirable, la France dans laquelle tout le monde a envie d'habiter, eh bien, on se rend compte que la concurrence pour ces meilleures places, elle s'est quelque part intensifiée du fait du télétravail et du fait que beaucoup de gens se sont rendus compte pendant les confinements, pas tous évidemment, mais une partie significative, notamment chez les cadres, qu'ils avaient la possibilité de consommer la France, le territoire à la carte, et donc de choisir l'emplacement le plus désirable, qui ressemble un petit peu, comme le dit Jean Viard, parfois aussi au pays des vacances. Voilà. Et je pense que c'est là qu'il y a eu vraiment un vrai basculement, c'est dans les représentations qu'on se fait des différents territoire.
Et on constate un incroyable attrait, hein, vous l'avez dit, pour la façade atlantique. Attractivité, par exemple, pour ce que vous appelez le cocon bordelais, hein, Jean-Laurent Casly.
Oui, encore une fois, le Bordeaux, le renouveau de Bordeaux avec le fait qu'une ligne TGV mette la ville à 2 heures de Paris, c'est quelque chose qui n'est pas récent, qui ne date pas de l'après-Covid, mais on a vraiment vécu depuis, je dirais, une bonne décennie, ce renouveau des capitales régionales, des grandes métropoles de région, et puis dans un deuxième temps, si vous voulez, comme par cascade, par ruissellement, hein, immobilier, un attrait qui se déplace à nouveau vers les villes satellites, les villes de deuxième rideau, les fameuses villes moyennes. Et en fait, on se rend compte, si vous voulez, que aujourd'hui le marché immobilier français, c'est une sorte de grand marché très concurrentiel, encore une fois, dans lequel chacun essaye de maximiser en fait son l'espace dont il dispose, et parfois aussi au détriment d'autres catégories sociales qui sont obligées d'aller toujours un peu plus loin. Et c'est ce que les agents immobiliers appellent les marchés de report, hein. C'est-à-dire vous n'avez pas accès au quartier de vos rêves, ben vous allez dans le quartier ou dans le faubourg un petit peu plus loin, vous allez en banlieue, ou vous franchissez le périph' et vous allez dans la première couronne, ou vous prenez carrément une ligne grande vitesse et vous partez de la capitale pour aller à Bordeaux, qui est devenu aujourd'hui, je caricature, mais en quelque sorte un petit Paris, quoi.
Et voilà. Oui, restons à Bordeaux, les prix de l'immobilier là-bas ont augmenté de façon spectaculaire, hein. Entre 2004 et 2018, les prix de l'immobilier ont été multipliés par 2,7, une forte pression immobilière sur les autochtones, hein, qui n'ont pas forcément les moyens d'habiter dans l'agglomération bordelaise et qui vont migrer plus à l'est, hein, dans le Blayais ou dans le Médoc, hein, Jean-Laurent Casly.
Oui, voilà. Il y a encore une fois, il y a ce jeu de chaises musicales qu'on observe. Moi, je suis à Marseille. Alors, toute proportion gardée, bien sûr, le même phénomène. Si vous voulez, de ruer vers certains marchés, petits marchés immobiliers, hein, certains quartiers en bord de mer, bien connectés avec beaucoup de petits commerces. On observe en fait, hein, de nouveaux acheteurs qui viennent de loin. Les agents immobiliers le disent. On a des gens qui, alors souvent on dit les Parisiens à Marseille parce que c'est plus pratique et puis c'est un raccourci. Mais en fait, derrière cette idée des Parisiens qui viendraient en Bretagne, qui viendraient dans le Sud-Est, qui viendrait à Bordeaux, il y a en fait plus généralement le fait que les gens sont de plus en plus mobiles et que encore une fois dans des marchés qui étaient plutôt locaux, qui mettaient en concurrence des acheteurs de la région, on se retrouve avec des gens qui viennent d'un peu partout et qui sont encore une fois grâce au télétravail ont la possibilité de rester peut-être 2-3 jours par semaine dans leur ville d'élection. Et puis vont aller le reste du temps dans une autre ville ou en région parisienne pour leur travail. Donc c'est vrai que cette nouvelle manière d'appréhender le marché immobilier, il a bouleversé tous les standards, tous les modèles. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on sait plus trop en fait où on est. On sait plus. Vous l'avez dit tout à l'heure, la première étude qui tente d'objectiver un petit peu cette tendance a plutôt tendance à relativiser les flux. Mais on se rend bien compte que en même temps dans les mentalités, les choses évoluent et que de plus en plus de Français se disent tiens, ben pourquoi moi aussi je partirais pas à Bordeaux, en Bretagne, à Marseille, à la campagne. Donc je pense que cette carte va continuer d'évoluer. Mais c'est vrai que nous, ce qu'on montre, c'est que cette France désirable, encore une fois, celle des littoraux, celle qui est bien connectée aux zones d'emploi, celle dans laquelle aussi le climat, la météo est la plus agréable. On va voir s'intensifier la concurrence pour ces bons morceaux de la France, j'ai envie de dire.
Et on assiste aussi, par exemple, à une forte attractivité d'une ville comme Biarritz. Vous l'écrivez dans votre livre, Jean-Laurent Casly, avec l'océan, le surf, cet art de vivre agréable. Beaucoup d'habitants des grandes villes sont attirés par ce que vous appelez cette nouvelle Californie française, avec, encore une fois, une pression sur les prix de l'immobilier pour les autochtones. Hein.
Oui, mais j'avais rencontré récemment le responsable d'un réseau immobilier qui me disait la Bretagne, c'est la nouvelle Côte d'Azur. Mmh. Et on pourrait en dire autant de la côte basque. C'est vrai qu'on a vu basculer l'imaginaire de la Côte d'Azur, hein, qui était très à la mode il y a encore 30 ou 40 ans. L'imaginaire un peu Saint-Trope, hein, si je caricature. Aujourd'hui, c'est déjà c'est des zones qui sont complètement hors de portée de la plupart des acheteurs, qui sont assimilés un petit peu à du bling-bling. Et en fait, il y a aussi un phénomène climatique qui est qu'en fait le sud-est devient difficilement vivable en été parce que les épisodes de canicule sont de plus en plus récurrents. Et donc vous avez par opposition une façade atlantique qui est plus douce en fait et dans laquelle les gens se reportent, notamment les retraités. Hein. Il faut pas oublier là on parle des télétravailleurs qui sont un peu les nouveaux retraités puisque ce sont des actifs qui ont le choix de leur localisation, mais les retraités aussi sont assez sensibles à la qualité de vie et à la qualité climatique, et de plus en plus on les voit se détourner quelque part de la Méditerranée en fait, et ça aussi ça participe au déplacement vers l'Atlantique. Mais pour revenir au cas de Biarritz, c'est vrai qu'on a vu un phénomène très intéressant, c'est que depuis quelques années s'y installent aussi des entrepreneurs, des gens qui travaillent dans la mode éthique, des gens qui travaillent dans le numérique, dans les startups, parce qu'en fait ils peuvent travailler de n'importe où, ils peuvent choisir d'implanter leur entreprise là où ils ont envie de vivre. Et en fait, ces gens s'attirent en fait les uns les autres par réseau. Une fois que des leaders d'opinion, des têtes de réseau décident de s'installer, ils font quelque part la publicité de leur nouveau lieu de résidence. Et ça, par effet de mode, quelque part, hein, ça attire de nouveaux arrivants.
Sans faire de poujadisme, il y a une pression immobilière pour les autochtones dans ces zones très désirables, très attractives. Ouais. Olivier Marin.
Oui, très désirable, absolument. Et d'ailleurs, maintenant aussi, dans l'imaginaire, c'est le travail qui intègre aussi le cadre de vie, en fait, c'est complètement différent. Alors, on sort quand même d'une année extraordinaire, l'année 2021, on a eu des transactions records, hein, faut vraiment avoir ça en tête, 1 200 000 transactions. On a vendu, on a acheté des maisons, des appartements, c'était du jamais vu. C'était vraiment du jamais vu. C'est vrai que ça a accéléré littéralement ces tendances. On a eu les demandes de balcons, de terrasses, de jardins. Et puis, il y a une conséquence, évidemment, sur les prix. Et les prix, là aussi, où c'était du jamais vu, on a eu des hausses de prix à deux chiffres dans des villes comme Brest, Amiens, Orléans, Reims, Tours, Besançon, Dijon, des villes où... C'est pas qu'on en parlait jamais au niveau immobilier, mais elles étaient un peu délaissées. Et là, on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est incroyable. Brest qui prend plus de 10%. Et en interrogeant, là, récemment, le maire de Brest, je lui demandais, mais finalement, est-ce que c'est bien ou pas bien? Pour les autochtones, en fait, pour les Brestois, c'est la catastrophe. Mais il me disait, mais d'un autre côté, ça met le marqueur sur la ville de Brest. Ça montre aussi qu'il y a une attractivité, il se passe quelque chose, il y a une fierté aussi là-dedans. Donc, c'est un peu partagé. Si on a une carte de France, il faut vraiment avoir ça en tête. On a Paris, les prix stagnent, on est à 10 700 euros du mètre carré à Paris. Ensuite, vous avez deux villes qui sont... à égalité, c'est Lyon et Bordeaux, 5000 euros du mètre carré. Après, vous pouvez devenir propriétaire pour moins de 3000 euros par mètre carré. C'est Toulouse, Montpellier.
Même s'il y a une pression immobilière à Toulouse.
Absolument.
Hein. C'est le Toulousain qui parle.
Absolument. Nantes, Nice, Marseille, Bayonne. Et puis, il y a des villes où on peut devenir propriétaire pour moins de 3000 euros du mètre carré. C'est Orléans, c'est Tours, c'est Reims, c'est Besançon, Dijon, Grenoble, Amiens, Rouen, Caen, Metz et Toulon. Et puis, il y a des villes, encore, aujourd'hui, on peut devenir propriétaire. Alors, évidemment, ce sont des moyennes, ce sont des prix médians des notaires, mais c'est important d'avoir ça en tête. Pour moins de 2000 euros par mètre carré, quand on pense Paris, 10 000, et voilà, c'est Bourges, c'est Poitiers, Saint-Étienne, Mulhouse, Clermont-Ferrand. Il faut vraiment avoir ça en tête.
Bonjour Loïc Quentin, bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes administrateur de la Fédération nationale de l'immobilier et partenaire du palmarès Villes et villages de France où il fait bon vivre, récemment publié dans le JDD. Ces villes et villages désirables se situent surtout dans l'ouest du pays, c'est ça ?
Oui, l'ouest du pays, mais d'autres points du territoire, parce que si l'ouest en a bénéficié un peu plus que d'autres secteurs, mais je dirais que c'est toute la France qui a été impactée. Olivier Marin rappelait effectivement l'échelle de prix, l'échelle des valeurs. Je crois qu'il y a une inversion importante dans la dynamique que nous avions rencontrée préalablement. Sans revenir sur ce qui a déjà été dit, mais Paris a quand même connu une baisse de prix qu'on n'avait jamais rencontrée depuis plus de 30 ans. Les grandes villes ont marqué le pas et avec une progression moins rapide, mais toutes les villes moyennes et tous les autres secteurs qu'on peut classer dans un secteur jadis oublié, qu'on avait laissé de côté, tous ces territoires se sont réveillés. Alors Brest, c'est 19% d'augmentation, Angers également, des villes comme Orléans, des villes qui ont été largement boostées face à une demande de ménages très forte pendant cette période de pandémie particulière, je crois. Donc l'enquête ville et village met en évidence, justement, en intégrant ce nouveau critère de l'attractivité immobilière, met en évidence, finalement, aujourd'hui, cette attractivité sur des nouveaux territoires, par des prix de l'immobilier qui se sont réveillés et qui restent attractifs puisqu'ils sont la résultante et la confrontation d'une importante demande des ménages.
Alors dans le top 10 des villes où il fait bon vivre, on retrouve en tête Angers, puis Annecy, Bayonne, La Rochelle, Caen, Le Mans, Nice, Lorient, Brest et Rennes. Quels sont les critères de ces villes où il fait bon vivre? Il y a également aussi le classement des villages où il fait bon vivre. Et là, c'est Guétari au Pays Basque qui arrive en tête. Quels sont les critères de ces villes où il fait bon vivre?
Alors, je crois qu'il faut reconnecter l'enquête de ville et village où il fait bon vivre avec cet épisode Covid qui a été un révélateur et un détonateur de nouvelles tendances. C'est ce que l'on a constaté. Les Français ont eu envie d'air pur, de nature, de nouveaux espaces de vie dans leur habitat. Et également, pendant cette même période, on n'a jamais vu, par exemple, autant de consultations des sites pendant les deux premiers confinements. Et également, pendant cette période, ils ont été confrontés à un télétravail mis en œuvre que nous n'avions pas pratiqué précédemment et ont découvert un nouveau mode de vie. Alors que c'est vrai, quand on télétravaille, eh bien, on envisage tout de suite un autre mode de vie. On a besoin d'une pièce de plus. Et là, il y a un bouleversement sociologique sur le mode d'habitat des Français. Aller chercher ailleurs et ne plus rester confiné dans une grande ville telle qu'il l'était précédemment. Et ça a amené effectivement une tendance et une observation et une recherche. Alors sur les territoires, les critères principalement, bien évidemment, ça va être d'être au plus près d'une ligne TGV. La ligne LGV, par exemple, a eu un impact extrêmement important. La ligne LGV Bordeaux, Paris-Bordeaux, vous citiez, a eu un impact important. Orléans aussi, qui est amené par une autoroute rapide, est à 50 minutes et est aussi impacté. Angers est à 1h20 de Paris. Et toutes ces villes, la LGV Paris-Vannes aussi, mais Vannes à 2h20 de Paris. Donc c'est-à-dire que les Français ont pris la dimension d'une attractivité forte de ces territoires par des moyens d'accès rapide. Et c'est vrai que, quoi de mieux, est-ce qu'on peut avoir un autre idéal que dans le cadre du télétravail qui se généralise pour beaucoup de professions et de métiers que nous n'avions pas expérimenté au préalable, ce mode effectivement de vie va se poursuivre. On peut très bien imaginer, voire même avoir deux logements ou en avoir qu'un seul et être en deux jours en présentiel à Paris et trois jours en télétravail.
Mais il n'y a pas que Paris dans en France évidemment. Votre regard tout de même, Jean-Laurent Casly, sur ces villes et ces villages où il fait bon vivre.
Oui, là, on vient d'entendre la description de la vie rêvée des cadres sup télétravailleurs que moi-même je fréquente et qui me parlent tous de leur bi-résidentialité à venir.
Mais c'est tout pas la majorité des Français, évidemment.
On est d'accord que se payer un appartement dans une grande ville et puis une maison en bord de mer, c'est quand même très sympathique. Mais il faut pas oublier ça. C'est une autocritique, c'est général qu'on peut faire aussi à la manière dont les médias ont suivi ces tendances. On ne peut pas tout voir depuis Paris, c'est-à-dire l'accessibilité des différentes zones depuis Paris, parce que beaucoup de gens raisonnent depuis chez eux et voient plutôt ces lignes de TGV comme j'en parlais à des Toulousains récemment. Et qui me disait justement que le fait d'être raccordé à la grande vitesse est aussi potentiellement un atout, mais aussi source d'angoisse pour eux parce que ils se disent oh là là, est-ce que c'est pas bientôt notre tour est-ce qu'on n'est pas le prochain Bordeaux, c'est-à-dire est-ce qu'on va pas voir arriver un afflux, encore une fois, il s'agit pas de stigmatiser les Parisiens, mais disons que les gens qui sont les cadres mobiles qui ont un bon pouvoir d'achat et qui n'arrivent plus à se loger à la capitale, parce qu'il faut pas oublier encore une fois que ceux qui sont considérés comme des envahisseurs, j'allais dire, sont aussi des gens qui se vivent comme déclassés, parce qu'ils ne peuvent plus ils ne peuvent plus vivre en fait dans une ville qui, ça a été rappelé par vos intervenants, est à au-dessus de 10 000 euros du mètre carré. Quasiment personne ne peut, sans apport conséquent familial d'héritage, acheter en fait à Paris en France en 2022. Donc en fait, vous avez encore une fois ce jeu de chaises musicales ce ruissellement, ce mauvais ruissellement, hein, ce ruissellement à l'envers, qui fait que chacun a tendance à aller regarder la commune un peu moins chère et par effet de cascade à en pousser les gens qui étaient déjà là. Parce que quand on dit 2000, 3000 euros du mètre carré, on a l'impression que c'est très très peu comparé au si on prend les talons parisiens comme référence, mais en réalité ce n'est pas du tout la référence de la plupart des gens. Et ils considèrent qu'une maison, à 350 000 euros, c'est déjà énorme. Et moi, je parlais avec un maire d'une commune de grande couronne parisienne qui me disait que les gens arrivaient chez lui et rachetaient des pavillons, vous savez, ces pavillons des années 70, un petit peu décatis pour des montants autour de 600 ou 700 000 euros. Ce qui pose quand même une vraie question d'ailleurs sur sociale pour les années à venir, sur le logement et l'immobilier, qui curieusement d'ailleurs est assez absent de la campagne présidentielle, sauf ce matin entre nous, voilà.
Merci beaucoup Loïc Quentin d'être intervenu ce matin. Dans quelques instants, comment bien acheter quand on a décidé de déménager hors des grandes villes. Ce sera juste après avoir fredonné Paris avec Camille.
Fini les balades le long du canal, les escaliers des cartes postales. C'est fini Paris, c'est décidé. Gris, les matins moroses, on n'est qu'à Toulouse, les briques sont roses. Là-bas, Paris, les briques sont roses. Paris, 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 que je te quitte. Ta bouche de métro, les bateaux mouchés, la couleur de l'eau. C'est fini Paris, je les connais tous. Ici je m'ennuie, même quand vient la nuit, on dit que ces vies s'éveillent à minuit. Là-bas Paris, la ville s'éveille.
Camille interprétée Paris.
France Inter. Grand bien vous fasse. Ali Rebbi.
10h30, comment bien choisir son logement loin des grandes villes, c'est notre thème ce matin. Le standard vous est ouvert au 01 45 24 7000 ou en laissant une note vocale sur l'appli France Inter.
Celui-là, je ne le vois pas, mais les autres, oui, tu peux les mettre dans le carton.
Pour les sureaux, Paris sera bientôt du passé. Après mûre réflexion, la famille a décidé de déménager dans le sud de la France. Le déclic, trois confinements qui lui ont donné l'impression d'étouffer dans la capitale.
Cette impression de manque d'air, de manque d'espace, qui est assez logique dans une grande ville, une ville aussi serrée que les Paris. Là, c'est devenu totalement invivable.
Même si on s'est dit on fera dans un an, dans deux ans et qu'on n'était pas pressé, de se dire mais en fait pourquoi on attend ?
Un départ accéléré par la crise sanitaire, car pour Cyril et Cathy, Paris a depuis quelque temps perdu de sa superbe, la ville lumière étant désormais à leurs yeux une source de stress.
Extrait de l'émission C'est en France, diffusée sur France 24 le 28 mai 2021. Alors Olivier Marin, je rappelle que vous êtes rédacteur en chef au Figaro, spécialiste, grand spécialiste de l'immobilier. L'envie d'acheter une maison individuelle dans une ville où il fait bon vivre n'a jamais été aussi fort depuis le début de la pandémie, on l'a vu. Cela reste un horizon désirable pour de nombreux Français. Rappelons tout de même qu'une majorité de Français vit dans une maison individuelle. Je crois que c'est 56% le chiffre officiel, plus que dans un appartement.
Oui, et puis la maison individuelle, alors on parle beaucoup de lutte contre l'étalement urbain, mais la maison individuelle, elle fait toujours rêver. D'ailleurs, il y a une enquête qui est sortie il y a peu de temps, c'est l'Institut IFOP qui nous indiquait, c'était une enquête sur les 18-30 ans, les jeunes de 18 ans, les jeunes actifs, pour savoir un petit peu leurs aspirations en matière d'immobilier. Bon, alors, on a su que la moitié habitait en appartement, le plus souvent en étant locataire. Plus de la moitié jugeait qu'il est difficile de trouver une location. Près d'un quart déclare qu'il a des difficultés à payer son loyer. Une partie est encore chez les parents, souvent par nécessité économique, évidemment. 6 sur 10 ont quitté le toit familial. Une grande majorité est partie avant l'âge de 21 ans. Je ne sais pas pour vous. Avec pas mal de changements et de mobilité, plus d'un jeune sur deux a déménagé au moins 3 fois depuis qu'il a quitté le domicile des parents. Et demain, donc, on demande à quel type de logement vous aspirez. Eh bien, c'est la maison individuelle. C'est la réponse à 70%. Et selon l'étude, 7 jeunes sur 10 souhaitent vivre dans une maison. Alors, une grande partie considère que la crise a eu un impact sur les souhaits en matière d'habitat. Les jeunes actifs plus que les étudiants. Et la majorité, alors, on leur demande, mais où ? Eh bien, ils disent ni à la campagne, ni dans une grande ville, mais plutôt en milieu périurbain.
Exactement.
Donc voilà, c'est assez étonnant quand même.
Et Jean-Laurent Cassis, je rappelle que vous êtes le co-auteur de La France sous nos yeux. La maison individuelle avec jardin, c'est donc un rêve pour de nombreux Français. C'est ce que vous appelez dans votre livre, l'idéal plaza majoritaire. Plaza en référence au célèbre animateur d'émissions immobilières sur M6. Rappelez-nous ce qu'est ce rêve, cet idéal plaza majoritaire en quelques mots.
Oui, alors c'est vrai qu'en clin d'œil à l'agent immobilier le plus célèbre de France et aussi à l'animateur préféré des Français, on a introduit cette référence aux émissions de Stéphane Plaza parce que depuis une quinzaine d'années, ces émissions sont consacrées à aider les Français à trouver leur logement idéal, que ce soit d'ailleurs un appartement ou une maison. Et c'est vrai que moi, en regardant beaucoup ces émissions dont je suis un fan, je me suis rendu compte que on y montrait assez bien que finalement l'aboutissement du parcours résidentiel des Français, c'était souvent la maison individuelle avec jardin, que ce soit souvent dans la couronne d'une grande ville ou d'une ville moyenne, avec toute la culture qu'on associe au jardin, la terrasse, le salon de jardin, l'apéro, le barbecue, de plus en plus la piscine enterrée, piscine hors sol, le trampoline pour les enfants. Tout cet imaginaire en fait de la vie de la vie familiale, du petit cocon en fait. Individuel et familial qui est, je pense, dans une période de crise sanitaire, cet attrait de la maison individuelle a été renforcé parce qu'on y voit une sorte d'abri, une sorte de refuge. Il y avait une étude récente de l'Institut Montaigne qui parlait de la France du proche dans tous les sens du terme. Les Français se sont repliés vers le proche en termes de territoire, mais aussi vers le proche relationnel, les amis proches et puis la famille, bien entendu. Ce rêve de la maison individuelle, il est très majoritaire puisque les Français Français, vous l'avez dit Alice, sont à peu près 1 sur 2 à vivre en maison individuelle, mais dans les projections, dans les sondages, on leur demande dans quel type de logement ils aimeraient vivre, la maison individuelle l'emporte souvent à 75 voire 80% des réponses, et comme l'a dit Olivier, c'est même le cas des jeunes, des fameux millennials à qui on prêtait encore quelques années d'aimer la ville dense, trépidante, et on se rend compte que finalement pas tant que ça, et je pense que le Covid et l'après-Covid a vraiment renforcé le software entre guillemets de la maison individuelle, et même le retour en grâce du pavillon qui était associé à l'étalement urbain, à la fameuse France moche entre guillemets, hein, du magazine Télérama, et on se rend compte qu'il y a un basculement total de perspective, puisque aujourd'hui, j'ai envie de dire, quelque part, tout le monde recherche des pavillons et des maisons individuelles, et dans l'étude que vous avez citée ce matin, les auteurs parlent de méga périurbanisation, je crois, hein, pour montrer que finalement avec le télétravail, s'étend en fait le périmètre de recherche de cette maison individuelle autour de la ville, hein, autour de Nantes, de Toulouse ou de Paris. Vous ne vous arrêtez plus à 35 minutes ou 45 minutes de transport ou de voiture, vous vous arrêtez à 1h20, 1h40, parce que vous avez dans l'idée que vous n'allez venir que ponctuellement et pas tous les jours. En ville, voilà.
Ouais. Hélène et Denis nous écrivent ceci, pourquoi pas venir habiter à Vierzon, à peine 2 heures de Paris, avec une jolie campagne et des bourgs alentours aux portes de la Sologne, très cher. Et nous accueillons Blandine, est-ce que vous avez décidé de quitter l'Île-de-France? C'est bien ça? C'est un projet bien mûri, bien arrêté?
Exactement, bonjour Ellie.
Bienvenue.
Merci, oui, nous avons pris cette décision, déjà ça mûrissait depuis pas mal d'années. Nous n'avons pas souffert du confinement, nous habitons dans une banlieue très agréable de Paris. Nous avons de la chance d'habiter au bord de Paris, là où c'est arboré. Mm-hmm. Donc nous n'avons pas souffert de cette situation. Par contre, notre décision a été prise pendant l'année 2020 et depuis 2020 nous avons bien mûri, bien préparé et bien voilà.
Est-ce que vous avez envie de partir en Sologne du côté de chez Hélène et Denis? Où est-ce que vous allez partir, Blandine?
Alors, la Sologne, nous connaissons un peu parce que nous la traversons quand nous descendons chez mes parents en Corrèze. Mais par contre, nous avons choisi le Pays Basque. Ah, et contrairement à ce que contrairement à ce que vous disiez, ce n'est ni la mer, ce n'est pas la mer que nous avons choisi, mais le pays intérieur, parce que c'est très joli et plus calme. Voilà.
Merci beaucoup, Blandine, de nous avoir appelé. Une fois qu'on a décidé du lieu où on allait habiter, hors des grandes villes, on achète, mais ça coûte cher d'acheter. Ouais. Il faut un apport. Les banques sont devenues beaucoup plus regardantes sur le profil des futurs acheteurs. C'est de plus en plus compliqué d'acheter, Olivier Marin. Il y a le Haut Conseil de Stabilité Financière qui a donné des instructions très claires aux banques, hein, pour limiter le crédit immobilier. Pourquoi? C'est pour éviter un trop fort endettement des Français.
Oui, en gros, c'est ça, Ali, absolument. Et alors, on a des taux d'intérêt qui sont bas, mais les taux bas, ça ne veut pas dire des prix bas. Il y a beaucoup de gens qui vous parlent de prix, de taux, qui mélangent un petit peu tout. On est à 1,07% en moyenne, toute durée confondue. Ça augmente légèrement. Alors, légèrement, ça veut dire que ça augmente de 0,3%. Ça paraît abstrait comme ça. Qu'est-ce que c'est? C'est pas important. Mais si, par exemple, sur un dossier de 300 000 euros de prêt, ça représente 12 à 15 000 euros. Donc, c'est pas négligeable. On est en moyenne à 0,90% sur 15 ans, 1% sur 20 ans, 1,15% sur 25 ans. Et la durée moyenne, on emprunte sur une vingtaine d'années. Et l'apport personnel, donc, est très important. Il est entre 10, voire certaines demandent 20% de la valeur du bien. Si vous rajoutez les frais de notaire, qui représentent 7 à 8% de la valeur du bien, ça commence à faire beaucoup. Donc, si vous n'avez pas la chance d'être héritier, d'avoir un patrimoine, de bénéficier de papa-maman pour vous aider du coup de pouce, c'est extrêmement difficile si en plus vous n'avez pas de CDI. Enfin, voilà, il y a beaucoup de primo-accédants, malheureusement, qui sont exclus. Les revenus sont regardés à la loupe.
Et depuis, donc, je le disais, le 1er janvier, le taux d'endettement doit représenter au maximum 35% des revenus du ménage. La durée de remboursement ne doit pas excéder 25 ans. et 27 ans sous certaines conditions très contraignantes.
Hein. Oui, notamment dans le neuf. Alors, c'est pour ça qu'il faut pas hésiter, conseil pratique, en fait, vraiment jouer la concurrence. S'il le faut, faites appel à un courtier qui va,
pourquoi,
qui va
vous aider. Pourquoi? C'est important.
C'est important parce qu'il va prendre du recul et vous aider, en fait, à trouver ce qu'il y a de mieux pour vous. Logiquement, ça doit être un rapport vraiment gagnant-gagnant. Donc, de toute façon, vous n'avez rien à perdre. Mettez la pression, s'il le faut, sur votre banquier.
Ça et coûte puis, cher de faire appel à un courtier?
Alors, normalement, l'opération doit être gagnante. Donc, il faut là-dessus prendre votre temps. Il existe des prêts aidés, le prêt à taux zéro. Il y a des prêts locaux et régionaux. Il y a beaucoup de choses. Et puis l'assurance emprunteur aussi.
Ah oui. Expliquez ce que
beaucoup.
C'est exactement.
Alors, ça représente. Bah, c'est ce qu'on vous dit. C'est l'obligation normalement, de toute façon, de la prendre dans le cadre d'un prêt immobilier. En fait, cette assurance emprunteur, finalement, ça a été adopté effectivement le 17 février par le Sénat, le 15 février c'est passé à l'Assemblée, c'est la loi Lemoine. Donc l'entrée en vigueur au 1er juin 2022, pour toutes les nouvelles offres de prêts, on pourra changer d'assurance emprunteur comme on veut pour toutes les nouvelles offres. À partir du 1er septembre, ce sera pour les autres prêts, c'est-à-dire les prêts qui sont en cours. Donc vous pourrez changer, et c'est important parce qu'on peut économiser beaucoup sur l'assurance emprunteur. On n'en parlait pas tellement avant, mais finalement, c'est très très important. Et puis quand même, deux choses, Alice, si je peux me permettre, en matière de conseils pratiques, c'est vrai que chaque bien est unique, c'est vrai que c'est bien d'avoir un correspondant sur place, de la famille sur place, d'aller, de se rendre sur place, mais il y a quand même des indicateurs sur Internet qui donne vraiment de grands services quand vous voulez avoir des indicateurs sur l'évolution des prix, notamment sur des quartiers, sur des rues. Il y a notamment le site de la base demande de valeur foncière, qui est en libre accès. Alors, c'est l'ensemble des informations détenues par l'administration fiscale. Alors, on a une carte de France, on peut zoomer sur un quartier, sur une rue, et il est possible de voir précisément quelle maison, quel appartement a été vendu et à quel prix ces 5 dernières années. Dans un secteur donné, on a la période de transaction, on a le nombre de pièces, on a la surface, c'est en totale transparence, c'est évidemment intéressant pour se faire une idée. Et puis, il y a aussi évidemment dans le privé les traditionnels réseaux professionnels, donc qui informent, qui proposent des estimations, mais il y a vraiment un bon plan. C'est le site qui donne en temps réel et gratuitement l'évolution des biens qui se trouvent sur les portails immobiliers. C'est un historique, en fait, un suivi des annonces. Vous pouvez voir à quelle date l'annonce d'un bien a été mise en ligne. Quand son prix, par exemple, est proposé à la baisse, vous dites, tiens, il se passe quelque chose. Le site s'appelle Castorus.
Redonnez le nom.
Castorus. Mmh. Alors, il est consultable. J'ai encore regardé ce matin et beaucoup, beaucoup de professionnels regardent. On a une réactivité comme ça des données immobilières. Ça devient un enjeu majeur parce qu'il faut savoir aussi qu'un bien qui est en ligne, par exemple, depuis 3 mois ou plus de 3 mois, c'est pas bon. C'est qu'il est pas au bon prix.
Et on accueille Anne-Claire. Bienvenue Anne-Claire, bienvenue.
Bonjour.
Alors, quelle est votre réflexion par rapport à tous ceux qui veulent quitter une grande ville, tiens, pour venir chez vous en Bretagne, où il fait bon vivre?
Ben, en fait, non, moi je suis pour qu'il y ait du métissage et qu'on se mélange. Par contre, ce que je constate, c'est que en fait, les locaux vendeurs, ceux qui vendent des biens, en fait, ont profité de cette vague-là. Et puis, ça fait déjà peut-être un petit moment que ça avait commencé, même avant le Covid. Hein. Et en fait, ils vendent des biens qui à des prix qui sont assez déplorables, en fait, et qui permettent plus aux jeunes qui veulent s'installer d'acheter. Moi, j'ai acheté il y a 17 ans et je sais que si j'arrivais maintenant pour acheter un logement, je pourrais pas. Techniquement, ça serait plus possible parce que les prix de l'immobilier ont été gonflés. Et c'est dommage parce que du coup, c'est peut-être les anciens qui vont vendre en essayant de faire vendre à plus cher leurs biens, mais qui ne permettent plus aux jeunes qui sont déjà sur les communes de s'installer. Mmh. Et ça crée un peu plus de précarité et il y a une double peine. Moi, j'habite en campagne et ce qu'on a vu s'installer depuis quelques années, c'était aussi avant le Covid, c'est que beaucoup de logements avec la vague des gîtes et Airbnb, en fait, qui étaient loués à des familles ou à des personnes, en fait, ont été mis en Airbnb, ce qui fait qu'ils sont plus accessibles à la location. Dans les campagnes, ça peut être aussi difficile de se loger.
Donc, c'est très intéressant.
Et dans la location. Donc, après, moi, je suis pour l'ouverture à tout le monde. Le souci, il n'est pas là, c'est le budget qu'on demande pour l'achat et qui ferme les portes à beaucoup de monde, en fait, ici.
C'est très intéressant ce que nous dit Anne-Claire, hein, Olivier Marin.
Oui, oui, sur le report, effectivement, on parlait de Bordeaux tout à l'heure, qui a été impacté par le phénomène Airbnb. C'est vrai qu'il peut se retourner notamment contre, bah, contre des étudiants même qui cherchent à se loger. Et puis, il faut avoir en tête que, alors, la Fondation Abbé Pierre le rappelait, on est à près de 4 millions de personnes qui sont mal logées, 300 000 personnes qui n'ont pas d'abri, qui n'ont pas de toit. Et puis, il y a quand même 1 100 000 logements en France qui sont vides, qui sont vacants, qui sont en fait inoccupés depuis 2 ans.
On sait pourquoi.
Alors, on sait pourquoi la plupart du temps. Il y a aussi beaucoup de propriétaires qui ont des biens à droite, à gauche et qui ont peur de rénover, de faire des travaux parce que, alors, pour certains, ils considèrent que ça va coûter très, très cher, trop cher pour eux. Donc, eh ben, ils laissent comme ça traîner. Et on a 1 100 000 logements qui sont inoccupés depuis 2 ans. Travaux de rénovation, ça, c'est vraiment aussi un enjeu majeur pour cette année 2022. On en parle de plus en plus, hein, vraiment, là, à la fois sur le DPE, le diagnostic de performance énergétique, à la fois sur le parc locatif. Il faut savoir que progressivement, les logements qui sont classés F et G, qui sont les plus énergivores, vont être retirés du parc de la location. Et là aussi, il y a une contradiction. Le gouvernement dit qu'il y a 4 800 000 passoires thermiques en France. La FNIM, par exemple, Fédération de l'immobilier, dit pas du tout. Il y en a 7 à 8 millions. Et puis voilà. Donc déjà, on n'est pas d'accord sur ce chiffre. Et il faut savoir, à terme, tout le monde est d'accord, la mobilisation elle doit être collective pour rénover, ça va dans le bon sens pour l'environnement, pour tout le monde, pour le locataire, le propriétaire, mais il faut pas que ça se fasse au détriment du parc locatif, et notamment au détriment des locataires.
Et Anne-Claire, Lady Jane va dans votre sens, hein, sur notre page Facebook, elle nous dit « Vivre à La Rochelle est devenu presque impossible quand vous êtes natif de la ville, car l'intérêt pour notre ville a fait grimper les prix. Et aujourd'hui, même avec des salaires à plus de 2000 euros par mois, les prix sont tellement élevés que nous ne pouvons plus nous loger. » Merci beaucoup Anne-Claire de nous avoir appelé. Je vous propose d'écouter une note vocale laissée par Anne.
Oui, enfin, il n'y a pas que les cadres supérieurs, quand même, dans la vie du travail. Voilà, j'entends dire les pauvres petits Parisiens qui ne peuvent plus habiter à Paris, comme c'est triste, mais tout le monde, en plus, ne peut pas télétravailler, quoi. Je veux dire, c'est quand même une certaine partie de la population au travail.
Jean-Laurent Casly, sur cette note vocale laissée par Anne.
Oui, ben c'est dit de manière directe, mais je pense qu'on a compris le message. Ouais. Non, mais l'idée c'est quoi? C'est qu'effectivement. Ah là, attends, excusez-moi. Excusez-moi, j'ai
c'est eu le un appel. C'est les gens du direct. Voilà,
le technicien m'avait bien prévenu de couper mon téléphone, mais j'ai pas réussi à le faire. Voilà.
C'est les gens du direct, mon cher Jean-Laurent Casly.
Je suis désolé. Mais voilà, votre auditrice a tout à fait raison. Je le rappelle encore une fois, on ne peut pas voir tout le marché immobilier français depuis Paris, mais ceci dit, il est important d'avoir en tête que c'est Paris qui donne le ton, parce que, si vous voulez, on parle là de plus en plus souvent d'une parisianisation de certains marchés immobiliers. On a parlé de La Rochelle, on a parlé de Bordeaux. On a parlé de certains quartiers de Marseille, on pourrait aussi parler de certains villages qui sont dans le périmètre des parcs naturels régionaux, qui sont aussi très cotés, très demandés, dans lesquels vous avez de très belles bâtisses, des fermes à rénover pour faire des gîtes par exemple. Et donc vous avez quelque part une intensification de la concurrence pour les bonnes places, et elle s'explique aussi par le fait que quand vous avez une capitale qui est à 10 000 euros du mètre carré, si vous revendez, je vais vous prendre un exemple assez concret, un T3 bien situé, vous êtes à 700-800 000 euros, et avec ce montant, vous vous rachetez un château dans la France rurale, vous voyez, donc dans une petite ville. Donc on ne peut pas faire comme si Paris et son le pouvoir d'achat des Parisiens propriétaires n'existait pas. Parce que c'est ça qui explique aussi la situation aujourd'hui en Bretagne, sur la côte basque, ou dans certaines villes moyennes dont Olivier a parlé, ainsi que votre interlocuteur de la FNAIM. Donc j'entends la critique, et moi-même je me la fais tous les matins en disant attention, il ne faut pas parler de la France uniquement depuis le marché immobilier parisien, mais il ne faut pas oublier que c'est parce qu'il existe que vous avez aussi cette espèce de mauvais ruissellement en cascade vers les autres territoires, en fait.
Allez, dans un instant, on s'intéresse au coût psychologique du déménagement et aux éventuelles désillusions, hein, quand on a quitté une grande ville pour une plus petite. Ce sera juste après Alt J qui interprète You and Me.
Smiles bend all over Cancun.
D'écouter Alt J qui interprétait You and Me.
Grand bien vous fasse, Ali Rebéi, sur France Inter.
Comment réussir son déménagement loin des grandes villes? C'est notre thème ce matin. Le standard vous est ouvert au 01 45 24 7000 ou en laissant une note vocale sur l'appli France Inter. Olivier Marin, Jean-Laurent Cassely, on peut s'exposer à des désillusions quand on a quitté une grande ville pour une plus petite. Il y a par exemple Laurence qui nous dit « Attention à la vie, à la campagne idéalisée par les gens qui habitent en ville. Quand on a des enfants, on passe facilement le mercredi sur la route pour amener l'une au basket, l'autre au piano et le troisième un anniversaire. Je l'ai vécu quand mes enfants étaient petits, 80 km d'aller-retour, sans compter la piscine et le cinéma, plusieurs kilomètres. Et puis Ulysse, sur notre page Facebook, les citadins qui viennent à la campagne n'ont pas toujours la connaissance de la réalité du terrain et du manque de services publics, de professions médicales, de réseaux internet. Et puis certains souhaiteraient amener la ville à la campagne avec son lot de commerces ouverts non-stop, les distributeurs automatiques, de la lumière toute la nuit, etc. etc. Jean-Laurent Cassely, sur les désillusions éventuelle quand on quitte une grande ville, la capitale, pour une ville plus petite ou pour des zones rurales.
C'est vrai que il faut. Du coup, c'est intéressant de voir que le déplacement d'une partie des citadins vers les petites villes et les zones rurales va aboutir à une nouvelle vague, une nouvelle génération quelque part de néo-ruraux. Et c'est vrai que depuis les années 70, les néo-ruraux ont été vus, alors de manière parfois un peu caricaturale, même dans les films ou dans les romans, comme des citadins un peu utopistes qui avaient de la campagne une idée complètement fantasmée, dans laquelle ils pensaient aussi changer de vie, avoir des rythmes de vie plus lents, être plus en accord avec la nature, et puis parfois ils se retrouvent dans des zones dans lesquelles les gens finalement passent leur temps en voiture, vont au supermarché, se font livrer sur Amazon, regardent la télé, et du coup ne sont pas du tout dans un délire, j'allais dire, de reconnexion avec la nature, et ça peut parfois créer des désillusions, où on peut parfois aussi un peu se moquer ou voir arriver de loin ces citadins qui parfois vont vouloir s'investir aussi dans la vie rurale, dans la vie locale, mais avec des manières de faire peut-être plus urbaine ou parfois des démarches un petit peu bobos, et ça crée parfois, alors pas forcément des conflits, mais des cohabitations un peu tendues entre les nouveaux et les anciens, que ce soit sur des modes de vie, que ce soit sur les priorités ou que ce soit sur des questions comme comment est-ce qu'on organise la fête du village. Mais ça, on l'a vu beaucoup dans les villages de néo-ruraux, les majorités ont tendance à évoluer parce que souvent les nouveaux arrivants s'impliquent beaucoup dans les conseils municipaux et parfois ils changent effectivement l'ambiance d'un village. Et ça va parfois aussi avec un certain nombre de tensions.
Alors j'aimerais qu'on aborde le coût psychologique du déménagement. Avec vous, Virginie Méglet, bonjour, bienvenue.
Bonjour Aziz, bonjour.
Vous êtes psychanalyste, vous venez de publier Hyper émotif. Pour vous, déménager, c'est la manifestation du désir de vivre. Comment réussir son déménagement, Virginie Méglet, quand on quitte une très grande ville, la capitale, pour une ville plus petite?
une fois considérés les problèmes matériels et financiers, on ne peut pas faire abstraction de la dimension psychologique, même en dehors de pas seulement psychanalytique, mais en psychologique, parce que le déménagement, c'est la réactivation d'un désir. C'est un appel d'air, ça rappelle aussi le rêve de l'idéal, et presque forcément suivi d'une, on en parlait là, de désillusion. Mais la désillusion n'est pas fatidique, justement, il faut la considérer, c'est un état passager. Hein. Et donc, entre le rêve tel qu'on a pu l'imaginer, il y a le retour au réel, et donc c'est se donner aussi le temps de l'adaptation. Le déménager, c'est ça, d'une part aussi, ça renvoie au premier, ça veut peut-être sembler bizarre, au premier déménagement qui était quoi? Qui était la naissance, hein, qu'on a changé d'un milieu pour passer à un autre milieu, et celui que toute personne a vécu en quittant la maison familiale. Donc forcément, ça va réactiver, ça met l'émotivité à l'épreuve, et ça nous vulnérabilise, alors qu'au moment même qu'on pensait s'agrandir ou se transformer en allant plus loin. Donc il faut accepter de passer par cet espace de ce moment de vulnérabilité, hein. Donc, on profite justement pour bien considérer les difficultés que l'on a, ne pas penser que si on est déçu, la déception est définitive. Ça, c'est aussi important. Hein. C'est-à-dire, la déception, c'est un peu comme toujours la naissance. Hein. Mmh. On parle de la chute. Hein. Bon, mais on a rêvé, on est déçu. Et donc, certains pensent à un retour en arrière. Et je pense que de toute façon, il faut arriver à le considérer, le déménagement, comme la possibilité de progresser vis-à-vis de soi, mais en pensant que non, on déménage pour soi, mais on doit aussi être, on va sur une nouvelle terre d'accueil. Et là, on en parlait tout à l'heure, qu'on disait, bah oui, les gens de La Rochelle, alors ça m'amuse parce que moi, j'ai déménagé à La Rochelle, justement. Les gens de La Rochelle se sont envahis par les nouveaux arrivants. Mais là aussi, je pense que c'est important de tenir compte pour passer du rêve à la réalité, c'est de tenir compte effectivement de la personne des personnes qui nous accueillent. Et que c'est dans cette rencontre-là que le déménagement sera vraiment une réussite.
Merci beaucoup Virginie Méglé pour votre intervention. Alors au terme de cette émission, Olivier Marin, Jean-Laurent Casny, quels sont vos conseils pour réussir ce changement de vie quand on quitte une très grande ville, quand on quitte la capitale pour une ville plus petite, Olivier Marin?
On a le droit, alors là on a parlé de désillusion, moi je pense qu'on a le droit de rêver. On a le droit de rêver d'un cadre formidable. On a le droit de donner un nouveau sens aussi à sa vie. Il faut que ce soit en couple. Il faut anticiper, il faut se projeter dans l'avenir. Il y a aussi beaucoup de gens qu'on connaît autour de nous qui nous disent que c'est positif, que justement ça a été pour une prise de conscience. Alors évidemment des désillusions, mais il y a aussi des gens qui réussissent. Et ne pas hésiter d'aller au bout de ses rêves, quitte à accompagner sa femme, son mari, sa famille, mais il faut y aller.
Des auditeurs réclament des sites immobiliers gratuits, notamment ceux que vous avez cités, Olivier Marin, est-ce que vous pouvez redonner vos sites de référence?
Il y a celui qui est de la base des notaires. En fait, c'est le demande de valeur foncière, DVF, vous tapez sur Internet.
DVF.
Et puis, il y a le site un peu spécial où on suit en temps réel l'évolution des annonces immobilières partout en France, c'est Castorus.
Jean-Laurent Casny, en quelques mots, on arrive au terme de cette émission.
Oui, moi j'ai beaucoup travaillé sur l'idée de la notion de quête de sens, en fait, et c'est que ce soit dans le domaine personnel, professionnel, et je pense qu'aujourd'hui il y a une forme de quête de sens territoriale, c'est-à-dire que les gens, quand ils déménagent, quand ils regardent une ville moyenne, un village, un littoral dans lequel ils voudraient vivre, en fait, ils voient aussi une autre manière de vivre, peut-être une autre manière d'appréhender leur vie personnelle, et ça peut être l'occasion d'un nouveau départ, et je pense qu'effectivement on va avoir de plus en plus une dimension psychologique, même existentielle, dans le choix de son lieu de vie. Et c'est pour ça que ça va compter, je pense, de plus en plus dans la vie des Français à l'avenir.
Merci beaucoup, Jean-Laurent Casny. On peut lire évidemment avec profit La France sous nos yeux. C'est publié au Seuil. Merci beaucoup, Olivier Marin, rédacteur en chef au Figaro. On vous retrouve dans le Figaro et sur France Inter le samedi à 6h48. Ça s'appelle L'urbanisme demain. Et demain, justement, on vous retrouve, j'espère, très nombreux en public, en direct du Festival international du jeu à Cannes avec toute la bande du vendredi.